Il y aurait donc d'un côté la littérature avec un L majuscule, la grande, la vraie, et qui serait couronnée par la critique. Et puis de l'autre, un produit commercial avec ses codes, ses personnages, toujours un peu les mêmes, et du facile à lire. Comme si l'une courait après le chef-d'œuvre, l'autre le profit. La réalité est sûrement plus nuancée, mais si vous regardez la liste des auteurs les plus vendus de France et la liste des auteurs les plus encensés par la critique, eh bien, ce n'est pas du tout la même. Alors, il y a bien sûr des exceptions qui vont de Hugo à Umberto Eco, et puis, il y a aussi des auteurs qui ne veulent pas forcément entrer dans la postérité, qui ne cherchent pas à écrire LE roman qui mettra tous les critiques du masque et la plume d'accord, mais qui font plutôt un boulot d'artisan, qui n'ont pas d'autres ambitions que de vous embarquer dans une histoire sans trop de figure de style. La littérature populaire peut-elle être plébiscitée par la critique? C'est la question aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Et on attend bien sûr vos questions, vos commentaires, vos réactions, vos envies de lecture aussi, hein, sur l'appli ou sur le site de France Inter. Mais comme tous les jours, on commence l'émission en ouvrant le journal. Et c'est Society qu'on feuillette aujourd'hui avec vous, Anthony Mossi. Bonjour.
Bonjour Thomas.
On revient un peu sur ce qui fait débat dans les pages de Society. Et il y a un article qui m'a particulièrement intéressé. Vous parlez de la galère du mot de passe.
Exactement, ouais, exactement. Un long article qui est né simplement de discussion avec des amis. On s'est rendu compte en discutant entre nous qu'on avait tous un peu nos propres systèmes, nos propres manières de les faire, et que surtout on y mettait chacun du sens. Que en fait c'était assez rarement simplement juste un truc mécanique et robotique qu'on utilisait pour accéder à un système ou à un site, mais une expérience voilà dans laquelle on mettait un peu de sens chacun. Donc ça pouvait être essayer de se rappeler de quelque chose d'important, mettre en scène le fait que de toute façon on n'arrive pas à oublier son ex, donc du coup on met son prénom dans nos mots de passe. Voilà, il y a plein d'histoires qui ont émergé comme ça, et puis j'ai tiré le fil du truc en allant parler à des spécialistes, en parlant à d'autres personnes aussi, des gens lambda qui ont des mots de passe comme tout le monde, parce qu'on en a tous. Et du coup ça nous a permis de mettre en scène une vraie réflexion sur la place des mots de passe dans nos vies.
Ce que vous racontez, c'est que vous parlez de l'étude de l'Institut technologique de l'Ontario qui s'est intéressé sur les mots de passe, hein, parce auxquels ils ont eu accès après une fuite. Et il se trouve quand même que, par exemple, un dixième des utilisateurs adoptent un nom et une année dans leur code. 0,2% choisissent carrément password. On trouve aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe assez régulièrement, ou bien AZERTY, alors que nous sommes avertis précisément du danger potentiel à se faire pirater. On continue à avoir des mots de passe hyper légers.
C'est ce que les spécialistes dans ce domaine-là, dans la sécurité informatique, appellent le paradoxe du mot de passe. C'est-à-dire qu'en gros, le mot de passe idéal, c'est un mot de passe dont on ne peut pas se rappeler, mais qu'on ne peut pas noter quelque part.
Oui. Donc l'impossible mot de passe.
Confronté à cela, confronté aussi à toutes les injonctions des spécialistes, ces mêmes spécialistes de la sécurité informatique, on est un peu tout seul face à notre ordinateur ou notre téléphone au moment de choisir notre mot de passe, et certains vont réussir à trouver des combinaisons pas possibles et introuvables, mais d'autres par flemme, mais rarement en fait, mais surtout par envie d'y mettre une charge émotionnelle, et aussi par l'envie d'y insuffler une sorte d'expérience humaine derrière, c'est-à-dire se rappeler de quelqu'un, se rappeler de quelque chose. J'ai par exemple l'exemple d'une jeune femme qui me disait que son mot de passe sur Parcoursup, c'était pas de Pôle emploi. donc voilà, c'est un peu quelque chose de, il y a quasiment une injonction à soi-même dans ce choix-là. Et donc du coup, cette base de données-là qui avait fuité il y a une dizaine d'années a été récupérée par des chercheurs en sécurité informatique qui voulaient un peu pouvoir quantifier les mots de passe faibles, essayer de voir quel mot de passe était trop utilisé pour ensuite derrière orienter une communication auprès des gens. Mais ce dont ils se sont rendu compte, c'est justement cette charge affective qu'on mettait dans les mots de passe. Et par exemple, les variations, parce que c'est en anglais, hein, donc les variations du verbe aimer, to love en anglais, étaient 12 fois plus importantes que le verbe to hate, qui est haïr. En fait, en gros, les gens y mettent aussi quelque chose de très humain et et beaucoup d'amour finalement, et c'est un peu ça qu'on voulait montrer.
Ce que vous racontez aussi, ce sont les moments gênants où on se retrouve à devoir dire à haute voix son mot de passe devant une assemblée, et donc là, j'ai noté certains mots de passe, c'est vrai, un petit peu délicats, qui peuvent prêter, enfin, en tout cas, qui peuvent faire rougir, hein, par exemple, BDSM 69 ou bien petite culotte 38.
Oui, bah ça, c'est vu qu'on y met quelque chose d'intime. quand cette intimité-là est levée pour des raisons diverses et variées, ça peut créer des moments de gêne. Et du coup, oui, il y a ces exemples-là qui m'ont été racontés par les gens. Et donc oui, effectivement, par exemple, ouais, cette histoire de petite culotte 38, c'était un patron qui était en PowerPoint projeté sur l'écran géant pendant une réunion et qui n'avait pas vu que le mot de passe s'affichait quand il rentrait son mot de passe. Et du coup, voilà, le boss a révélé son mot de passe un peu gênant devant toute l'assemblée. Et voilà, donc la personne m'a raconté ça avec un grand sourire aux lèvres.
J'imagine. Est-ce que vous racontez aussi, et là c'est beaucoup plus sérieux, c'est que le premier piratage qui a eu lieu, avant que le mot même hacker n'existe, c'était le sous-patron de Dell, je crois, enfin d'IBM à l'époque.
Le premier hacker informatique de l'histoire, c'est effectivement le vice-président de Dell, qui est aussi passé chez IBM, ensuite chez Dell après. Aujourd'hui, c'est un retraité. Et c'était pas un hacker comme on les imagine aujourd'hui, c'était simplement, en fait, une époque où les ordinateurs, on était en 62 ou 63, les ordinateurs mesuraient 2 mètres de haut, il y en avait très 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 peu dans le monde, et justement, ils étaient surtout dans les centres de recherche universitaires américains. Et en fait, il s'est retrouvé avec un projet scientifique à mener, mais il n'avait droit qu'à 4 heures d'ordinateur par semaine. Et du coup, il a trouvé la commande pour sortir tous les mots de passe du système. Et en gros, il a volé du temps à ses petits camarades pour pouvoir finir son projet de recherche. Donc voilà le premier hack informatique de l'histoire. Enfin, en tout cas. Enregistré, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est le premier qu'on connaît, quoi.
Et donc, un homme tout à fait sérieux. Ben, merci, Anthony, et m'en suis. Hein. Cet article est à retrouver dans Society en kiosque aujourd'hui, mercredi 25 août. Merci à vous, bonne journée.
Merci beaucoup.
'Attendons-nous, mon président, pour accuser Guy Descartes de n'importe quoi, afin que nous puissions enfin le remercier pour l'ensemble de son œuvre, dont la moitié suffirait à fournir en papier toilette les chœurs de l'Armée Rouge et la Saint-Étienne. Pendant au moins une génération. Qu'attendons-nous? Je sais bien que les intellectuels pédants de ce pays renâclent à lire Guy Descartes parce qu'il n'est pas communiste. Mais croyez-moi, il y a autant de beauté dans le style grumeleux de cet homme qu'il y a de sincérité dans un sermon du révérend Mitterrand.
Pierre Desproges, qui jouait au critique assassin dans le tribunal des flagrants délires en 1981 sur France Inter, et trois invités pour évoquer aujourd'hui la littérature populaire. Ces livres dont on parle sont-ils aussi ceux qui se vendent? Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Thomas.
Vous êtes journaliste et chroniqueur à lire. Bonjour Cécile Rabault.
Bonjour.
Vous êtes sociologue de la littérature à l'Université de Paris-Nanterre. Et bonjour Franck Tilliez.
Bonjour.
Vous êtes auteur de Polar, parmi les plus lus en France. Hein, vous figurez régulièrement dans le top 5 des ventes. Est-ce que vous faites justement cette distinction, comme je le faisais en préambule, entre d'un côté la littérature avec le L majuscule et de l'autre côté une littérature, disons, plus artisanale?
Quand je me suis mis à écrire des livres, ça remonte à 20 ans déjà, je ne me suis pas du tout posé la question. En fait, j'ai écrit des histoires que j'avais envie d'écrire, que j'avais à l'intérieur de moi et qui me plaisaient. Il se trouve que ce que j'écris coïncide à ce que les gens attendent. Il y a une attente des gens et il y a un lien qui s'est créé entre mes romans et une certaine attente. Donc au début de ma carrière, c'est vrai que je voudrais très très peu de livres. Hein. Moi, aujourd'hui, on me qualifie d'auteur de best-seller, mais je n'écrivais pas des best-sellers. Les livres sont devenus des best-sellers avec le temps, mais mes premiers romans, je les vendais à 500 exemplaires. Donc c'est quelque chose qui est venu vraiment avec le temps. Et puis mes romans ont commencé à être critiqués, ce qui n'était pas du tout le cas au début, puisque quand on débute, on est auteur complètement inconnu et on attend avec hâte les premières critiques. Et voilà, c'est là où j'ai pu voir un peu, où j'ai découvert le monde de l'édition, ces petites fractures qui pouvaient exister entre la littérature de genre, dite populaire, et puis une littérature plus...
Petite fracture ou fossée?
C'est quelque chose que j'ai... Comme ça fait 20 ans que j'ai écrit, ça s'est vraiment amélioré avec le temps. C'est-à-dire que ce qui était un fossé... il y a encore 20 ans et au-delà, se réduit vraiment au fil des années. On pourra en parler parce que le lien en fait entre la littérature blanche et la littérature de genre s'effrite vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs par exemple qui franchissent ces frontières, il y a des auteurs qui écrivent de la littérature blanche mais qui s'inspirent du polar pour construire leurs intrigues. Donc il y a vraiment des transvasements entre ces deux milieux qui étaient vraiment très très hermétiques. J'ai la chance moi au fil des années d'avoir une critique plus plutôt favorable et une bonne critique qui analyse vraiment bien mes romans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il reste quand même dans le milieu littéraire un microcosme de critiques qui ne s'attaquent pas à la littérature de genre ou populaire.
Cécile Rabaud, sur cette question justement de littérature.
Oui, alors ces deux littératures, ça renvoie au modèle de Pierre Bourdieu sur le champ littéraire. Pierre Bourdieu parle d'un champ littéraire qui a deux pôles. Un pôle, comme vous disiez, de production restreinte. Enfin, lui, il dit de production restreinte, c'est-à-dire qui cherche la littérature avec un grand L, qui vise la valeur littéraire, c'est-à-dire aussi la valeur qui peut-être à un moment donné est reconnue encore par peu de gens, mais qui sera reconnu par la postérité. Enfin, c'est cette logique-là. Et puis, l'autre pôle, c'est ce qu'il appelle le pôle de grande production, qui produit avec un nombre d'exemplaires très important, qui vise le succès plutôt à court terme, et qui n'a pas vraiment l'ambition de marquer l'histoire littéraire, disons, mais a l'ambition de faire plaisir aux lecteurs. Donc, bon, c'est un modèle qui est pas forcément qui permet pas de décrire toutes les réalités d'aujourd'hui,
donc,
mais qui
manichéen.
Permet de penser, voilà, bah, comme tout modèle, hein, la plupart du temps les modèles peuvent être un petit peu rigides, mais disons qui permettent de situer un certain nombre de choses. Après, c'est des pôles, donc les pôles, c'est comme sur le globe terrestre, il y a des pôles et il y a des tas de positions intermédiaires, et c'est aussi pour ça que c'est difficile de classer. Il s'agit toujours de situer quelque part entre des pôles. Il y a certaines productions qu'on va vraiment pouvoir considérer comme appartenant quasiment à un pôle, d'autres vraiment à un autre. Et puis, entre les deux, il y a tout un continuum.
Alors, même si, évidemment, c'est à nuancer, hein, et on a toute l'heure pour le faire, quand on regarde à la fois la liste des auteurs les plus vendus en France et puis la liste des auteurs les plus encensés par la critique, on se rend compte, Éric Libiot, que ce n'est pas du tout la même.
Non, ce n'est pas la même. Mais si je pouvais me... Alors que je suis un grand défenseur de la littérature populaire et de genre, mais si je pouvais me faire le défenseur, l'avocat du diable de mes camarades critiques, on pourrait se dire que c'est très bien. Ceux qui vendent, ils n'ont pas forcément besoin de presse, et les autres, ils en ont un peu plus besoin, parce que justement, ils vendent pas. Donc voilà, ce serait le meilleur des mondes possibles. Évidemment, ce serait un peu trop facile. Il y a aussi le travail des libraires auquel il faut rendre hommage.
Et on sera en ligne justement avec un libraire dans quelques instants.
Franck Tilliez en est un symbole évident. Mais il y a quand même, oui, moi, pardon de jouer un peu à l'ancien combattant, mais j'ai commencé à écrire sur le polar dans les années 80, à l'époque où une nouvelle génération arrivait, Pennac, Deninx, Benacquista, Pouy, etc., juste après Manchette. Et c'est vrai que cette littérature-là était totalement méprisée par la critique. Alors, ça va mieux aujourd'hui. Les auteurs ont fait sans doute un effort en écrivant mieux. Les critiques, peut-être, ont été piqués d'une curiosité qu'ils n'avaient pas avant. Mais ça reste quand même une littérature qui est un peu vue de travers, quoi. Ce qui m'agace profondément quand même.
Si on prend la liste, par exemple, des auteurs les plus vendus pour l'année 2020, selon Livre Hebdo, hein, c'est Guillaume Musso avec plus d'1 500 000 exemplaires, Virginie Grimaldi, 82 000 exemplaires, Michel Bussy, 820 000 exemplaires, Michel Bussy, 815 000, Franck Tilliez, ici présent, plus de 750 000, sont pas des auteurs dont on parle, pour le dire vite, au masque et la plume.
Non, ils sont même assez surpris de remarquer que ces auteurs-là existent déjà. Donc c'est quand même un petit peu surprenant que des critiques littéraires ne sachent même pas qu'un tel ou un tel existe. Après, moi, je crois beaucoup à l'idée...
Beaucoup le masque et la plume ici, hein, quand même.
Pardon ?
On aime beaucoup le masque
et
la plume.
Mais moi aussi, j'aime beaucoup. Ah. Je suis juste parfois un petit peu surpris de la méconnaissance. Donc je ferme la parenthèse. Mais moi, je crois beaucoup... D'abord, je ne crois pas qu'il y ait deux grandes littératures. Il y a effectivement, comme vous disiez, des degrés. Et puis, je pense que les gens qui aiment Franck Tilliez vont lire les bouquins de Franck Tilliez. Et puis après, se dire, tiens, le polar, c'est pas mal. Ils vont finir par lire peut-être Benacquista. Et puis après, ils vont lire Elroy. Et puis après, ils vont se dire, tiens, c'est marrant, aux éditions de minuit, il y a un type qui s'appelle Jean Echenoz qui écrit aussi des romans qui s'apparentent un petit peu au polar ou au roman d'espionnage. En fait, ce que fait Franck, c'est raconteur d'histoire, puisque moi, je les appelle les raconteurs d'histoire. D'abord, c'est très difficile à faire. Premièrement, j'aurais tendance à dire que l'autre littérature, c'est un peu des raconteurs de soi-même. Et cette littérature-là, de celle de Tilliez et d'autres, elle donne le goût de la lecture. Et ça, c'est vachement important. C'est pas tant de séparer la littérature, c'est que se dire que ces romans-là donnent le goût de la lecture. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important que ce goût de la lecture qui après feront que certains lecteurs, mais pas tous, vont aller voir ailleurs d'autres romans, d'autres auteurs, etc. Et petit à petit, les choses vont se faire comme ça. Donc d'abord, je suis très optimiste sur le goût des lecteurs, moi.
Ça pose aussi la question de ce qu'est la littérature populaire, Cécile Rabeau. Comment il faudrait la définir, si jamais c'est possible de définir la littérature populaire, évidemment en 2 minutes 30, hein, pas...
Définir la littérature populaire, je ne saurais pas forcément la définir
intrinsèquement. Est-ce que c'est celle qui se vend le plus? Est-ce que c'est quantitatif? Qu'est-ce que ce serait la littérature populaire?
Oui, ça serait la littérature qui rencontre un succès auprès d'un grand public. Moi, je dirais ça. Après, la difficulté, c'est que il y a aussi des genres qui sont considérés comme de la littérature populaire, comme le roman sentimental, le roman d'espionnage, etc. Donc, en fait, c'est un terme qui peut correspondre à des réalités un peu diverses.
C'est un livre qui va être lu par toutes les classes de la société. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une personne qui se retrouve avec un livre entre les mains, et ce livre n'aurait jamais dû se retrouver entre les mains si ce n'était pas la littérature populaire. Moi, je parcours vraiment beaucoup de salons du livre, et un jour, il y a un monsieur qui vient me voir et qui travaillait dans l'industrie, il était ouvrier, et il me dit, en me remerciant, c'est-à-dire en disant, grâce à votre livre, je me suis mis à relire alors que j'avais arrêté de lire il y a 30 ans. Et, pour moi, c'est ça la littérature populaire, c'est faire que mon livre, à un moment donné, se soit retrouvé entre les mains de cette personne-là qui avait arrêté de lire et qui... finalement, grâce à cette littérature, comme disait Éric Libiot, fait que cette personne peut dire, j'avais une mauvaise image de la lecture, reprendre goût à la littérature, quelle qu'elle soit, et d'aller dans les librairies pour effectivement suivre des conseils et peut-être évoluer vers une autre littérature un peu plus complexe, un peu plus élitiste. Mais enfin, c'est un débat qui revient souvent faut-il lire les auteurs de best-sellers, les auteurs entre guillemets commerciaux? Moi, je trouve incroyable que des gens dans le métro aient un livre entre leurs mains. Enfin, c'est l'acte de lire qui est très très fort.
Quel que soit le livre.
Aujourd'hui, on est envahi par les écrans. C'est tellement facile de regarder son téléphone, de regarder une série où on est plutôt quand même passif. Dans la lecture, il y a un acte incroyable, qui est celui de faire l'effort d'assembler des mots pour générer des images et pour se mettre à voyager, se mettre dans la peau de personnages, vivre des émotions. Et quel que soit le livre, ce qui compte, c'est de ressentir de faire ressortir ça chez un lecteur. Et ce lecteur-là, à un moment donné de sa vie, il a fait une parenthèse dans son existence, probablement maussade ou très très rapide, et il s'est dit, il est plongé dans un autre monde. Et pour moi, c'est ça, la littérature populaire, le livre.
La littérature populaire, justement, aujourd'hui, dans le débat de midi, les livres qu'on lit sont-ils ceux dont on parle? Dans quelques instants, nous serons au téléphone avec une libraire. On a expliqué à l'instant l'importance des libraires. On attend toujours vos commentaires, vos réactions sur le site de France Inter. Et bel été à vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
Je suis tellement loin, c'est parti pour quelques heures. Près de couleurs, trop sable en mouvement. Foncé, trop pressé de plus penser. Cerveau danseux, donc on est branché. Sans te défoncer, plus rien de sensé. Sors dans ma tête de bouche, faut que je me teste, que je l'ouvre, ok. Trop de tes questions brusques, beaucoup de pression. Muscles, trop de stress, pas d'émotion. Agression à chaque réflexion, back. Oppression, attaque, restriction, black. Tu veux pas de moi, tu veux pas de nous, mais tu peux pas le dire en face. Pas le tango. Je te demande un minimum de respect. Je calme mes nerfs, j'en vais balance des bras sur une compo. J'calme mes nerfs, j'en vais tango. J'balance des bras sur une compo. Moro. Moro. Donne-moi ton père, que j't'appelle et ramène à l'hôtel. Genre, fais pas genre qu'on ne va pas le faire. Non, 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 je t'entends tes billets là.
cherches l'amour dans la mort. T'arrêtes pas de causer du tort. Tu t'ouvres les veines, mais encore. Là, t'ignores tous tes efforts. Tour à tour, les deux bords. Se ferme et tu te déports. S'il le faut, tu le fais. Il est faux, tu le sais. Illico, tu le fais. Silicone dans la fesse, une icône dans la presse. Une miche, toi dans la tête. Jamais seul, tu t'en sortiras. Il reste une place dans le corps, hier. J'écris sur tout ce que je pense, et j'écris sur t'es son coq, hier. Et sur ce que je risque d'apercevoir. J'aime quand je te perds, regarde d'avance. Quand c'est ta gère, chante ta fragrance. Tout c'est sévère, pas mon douce à la moniaque. T'aimes le bandit que je suis. T'aimes la vue que tu me suis. Tu comptes sur mes économies. T'es ma que pour aujourd'hui. T'as j'ai fait doubler la mise de peine. Bientôt j'abandonne le bis de pas loin. J'prends vis de mer. J'calme mes nerfs, j'vois VER tango. J'balance des phrases sur une compo. J'calme mes nerfs, j'vois VER tango. J'balance des phrases sur une compo. Moro. Donne-moi ton père, que je t'appelle et ramène à l'hôtel comme si de rien n'était. Donne-moi ton père, que je t'appelle et ramène à l'hôtel comme si de rien n'était. Fais pas genre qu'on va pas le faire. Non, 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 j't'entends t'ébiler la tête. Fais pas genre qu'on va pas le faire. Non, 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 j't'entends t'ébiler la tête.
Le rappeur Damso, encensé lui aussi par la critique et ce titre morose.
Thomas Chauvineau, le débat de midi.
Trois invités aujourd'hui pour s'intéresser à la littérature populaire. Franck Tilliez, qui est auteur de Polar, Éric Libiot, journaliste, et Cécile Rabaud, sociologue de la littérature. Et puis vos messages qui nous arrivent sur franceinter.fr. Evelyne nous dit, en tant que bénévole dans la bibliothèque de mon petit village, une amie prof avait parlé un jour d'un roman de gare à propos d'un livre qui plaisait beaucoup aux lecteurs. J'avais trouvé cela choquant et méprisant, moi qui me démène pour amener un maximum de personnes à la lecture, tout simplement. Un livre, c'est comme du vin, on l'aime ou pas. Dans votre livre, justement, Franck Tilliez, le dernier sorti, 1991, il y a des descriptions très précises, notamment d'autopsie. Alors bon, il est midi 27, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, pour ceux qui sont à table ou alors de l'apéro, mais la question que je me suis posée en lisant, c'est comment vous travaillez? Est-ce que, par exemple, vous-même, pour être aussi précis que ça, en termes à la fois techniques, temporels, de l'autopsie, vous avez assisté, par exemple, à des autopsies? Vous travaillez avec la police, puisque c'est l'histoire d'un héros qui est policier dans votre livre, Charcot?
Oui, 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 j'ai des contacts très rapprochés avec des spécialistes qui tournent autour de l'univers policier. Alors, ce sont effectivement des policiers, des juges, des médecins légistes, des médecins tout court, des scientifiques aussi, parce que dans mes livres, je parle beaucoup de science et d'évolution des technologies. Donc, c'est vrai qu'il y a ce gros travail de recherche que je fais à chaque livre, parce que alors j'écris du polar, et c'est vrai que j'écris avant tout pour procurer du plaisir aux gens, du plaisir de lecture, notamment par la peur, hein, qui est l'émotion liée au polar. Mais je trouve vraiment intéressant d'apporter, en plus de l'histoire que je vais raconter, une connaissance au lecteur, ce qu'on essaye de faire dans le polar. C'est quand même le propre de ce genre, à la base, de pointer justement les dysfonctionnements de la société, qu'ils soient sociaux, politiques, parler de chômage, parler de suicide dans l'entreprise, parler de l'industrie du tabac. Et donc, en fait, moi, mon approche est plutôt de parler des dérives scientifiques et de faire que les lecteurs, à la sortie de 1991 ou d'autres romans, se posent des questions sur le monde dans lequel on vit. Je vais faire une petite parenthèse. J'ai écrit un roman qui s'appelle Pandemia, qui est sorti en 2014. Et qui, j'avais fait beaucoup de recherches sur, auprès de l'Institut Pasteur de Lille, sur la possibilité d'un virus qui se répandrait dans la population. Et en fait, ce qui se passe dans Pandemia, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid au début de la... Et en fait, ce roman, c'est quasiment jamais autant vendu que pendant l'épidémie, pendant le confinement de mars 2020. Et ça, c'était vraiment très, très intéressant, sociologiquement, d'ailleurs, d'essayer de comprendre et de se dire, mais le confinement de mars 2020, il était horrible. C'est-à-dire, on était dans une situation de stress abominable. On ne connaissait rien de ce virus, on avait tous peur. Et se dire, mais pourquoi les gens vont acheter. Il y a eu la peste de Camus et ils ont acheté Pandémia parce que justement, cette littérature populaire fait qu'à un moment donné, elle sert aussi à amener un regard différent des gens sur un sujet qui était rabâché dans l'actualité, mais toujours sous le même angle. Et grâce à cette littérature, ils ont pu avoir un angle différent sur un sujet qui, à ce moment-là, les intéressait.
Il me semble que le film Contagion faisait partie des films les plus téléchargés à l'époque, mais peut-être que la sociologue que vous êtes, Cécile Rabaud, a un point de vue sur cette question, en effet.
Alors, ce qu'on veut dire peut-être à ce sujet, c'est que les littératures populaire et le roman policier en particulier, je fais pas de superposition entre les deux, sont parfois ramenés à des lectures de divertissement, donc elles sont censées procurer du plaisir, de l'émotion, elles sont censées évader les gens de leur quotidien, etc. Ce qu'elles font, de fait, c'est une de leurs fonctions, mais ce qui est intéressant, c'est de noter qu'à côté de ça, à côté de cet usage de divertissement, il y a presque toujours d'autres fonctions, d'autres usages, et notamment un usage qu'on peut appeler un usage didactique, c'est-à-dire lire pour apprendre. Enfin, quand je dis lire pour apprendre ou lire pour s'évader, je renvoie à une typologie qui a été proposée par Gérard Mauger et Claude Polliac dans une étude qu'ils avaient faite sur la lecture à partir d'une grande enquête sur les lecteurs qu'ils ont appelés des histoires de lecteurs. Donc, ils proposent une typologie d'usages sociaux. Et donc, lire pour s'évader, c'est une fonction. Lire pour apprendre, c'est une autre. Et puis, il y a aussi, même plus que ça, une fonction qu'ils appellent lire pour se parfaire, lire pour évoluer dans sa vie, ce qu'ils appellent la lecture de salut. Et en fait, même dans ces littératures parfois décriées par une partie de la critique ou ceux qui se prétendent les experts du champ littéraire, même dans cette littérature-là, il y a souvent ces différentes fonctions recherchées par les lecteurs. Et ce que vous disiez, la remarque de l'auditrice que vous citiez, ça me faisait penser à un ouvrage que j'avais pu, enfin qui était de cette catégorie des romans historiques, sentimentaux, sans prétention littéraire. Et moi, j'avais trouvé cette étiquette roman de gare, mis non pas par un professeur, mais par une bibliothécaire. Et c'était au moment d'un comité de sélection où ce livre avait été examiné et puis écarté. Et avec le motif roman de gare, j'avais trouvé que c'était quand même un petit peu fort. Et après, j'avais fait une petite analyse de la réception de cet ouvrage en regardant sur les réseaux sociaux ou sur des sites internet, et j'avais vu justement qu'un certain nombre de gens disaient « bon, j'ai pris du plaisir à le lire, etc. » mais aussi « j'ai appris des choses sur comment fonctionne la société, la médecine au 19e siècle, etc. » Donc cette dimension didactique est particulièrement important.
C'est ce que nous dit Rémi sur franceinter.fr. Bien des auteurs populaires permettent cependant des exégèses poussées, Tilliez notamment, dont certains romans sont construits selon la suite de Fibonacci. Vous avez construit un roman selon la suite de Fibonacci?
Oui, c'était. Moi, je suis assez féru de mathématiques, j'aime bien ça, donc c'est des petites choses que je cache dans mes. Enfin, j'ai une construction de mes livres assez. J'ai un esprit d'ingénieur, donc j'ai construit un peu de la manière d'un programme informatique. Donc il y a un peu comme ça. J'aime beaucoup jouer avec la construction en plus de l'histoire que je raconte. Oui.
Nous sommes aussi au téléphone avec Anne-Laure Vial. Bonjour.
Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation.
Eh ben non, merci à vous d'y avoir répondu. Vous êtes la cofondatrice de la librairie ici à Paris. Alors 521 livres pour la rentrée littéraire. Comment fait le tri, Anne-Laure Vial?
Alors oui, cette rentrée est très foisonnante. Il y a 340 livres français, je crois, et 150 à peu près en littérature étrangère. Alors nous, en fait, on est une dizaine de libraires et on va lire tout l'été ces livres, les manuscrits. Les éditeurs nous ont présenté leur rentrée, ensuite on se répartit les manuscrits et ensuite on fait un travail de mise en commun de nos lectures et à 10, on choisit 28 livres qui nous semblent représenter le mieux nos envies de transmission de textes Et on fait ça vraiment en toute sincérité et à la fois subjectivité, parce qu'on n'a pas la science infuse et on ne prétend pas dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Justement, par rapport à ce qu'on disait, en effet, on pense que ce qui est le plus important, c'est qu'on lise et qu'on transmette cet acte de lecture. Ça, c'est vraiment notre idée. Et cette année, moi, ce qui me frappe par rapport aux discussions que vous avez eues là auparavant, c'est qu'on est dans une rentrée littéraire qui me semble assez romanesque et justement aussi tournée vers l'apprentissage et moins dans l'autofiction que d'autres années, me semble-t-il. Hein, encore une fois, ça c'est mon avis, mais de ce que j'ai lu et vu dans nos sélections.
Alors, qu'est-ce qui se vend le plus dans votre librairie? On a évoqué tout à l'heure la liste pour l'année 2020 hein, des auteurs les plus vendus en France. Quels sont les auteurs les plus vendus chez vous?
Alors là, en ce moment précisément, je sais qu'on vend très bien Dune. On a commencé à bien vendre Ishiguro qui vient de paraître. On vend aussi bien Anne-Bérez qui vient de paraître, La carte postale. Donc là, on vend aujourd'hui donc Dune parce qu'il y a cette actualité. Et on vend des titres de la rentrée littéraire. Là, on commence à les vendre. C'est tout récent, hein, depuis une semaine.
Franck Tilliez, dans votre livre, quand on ouvre la première page, on tombe pas sur, d'habitude, vous savez, vous avez la petite phrase sortie de Libération, sortie de Figaro, haletant, thriller palpitant, Le Parisien, voilà. Là, ce sont des libraires qui parlent, vous avez donné la parole aux libraires, par exemple Véronique Bruno de Cultura de La Clé sous bois dit « La naissance de l'inspecteur Charcot, une intrigue en jeu de piste menée par un pervers des plus effroyables, addictif et déconcertant, ce nouvel opus vous ravira ». C'est important pour vous cette parole ?
Oui, elle est extrêmement importante. Moi, j'ai commencé à parcourir les petites librairies depuis mes premiers romans et je dois tout aux libraires. Ce sont les libraires qui, les premiers, ont lu les livres et ont dit, mais qu'on trouvait quelque chose, ont conseillé leurs lecteurs en disant, bah, allez-y, lisez ces romans. Donc, c'est vraiment né de cette manière-là. Et c'est pour ça que je fais toujours un point d'honneur d'aller en librairie. Là, il y a eu quelque chose de formidable. C'est que les jeunes ont eu droit à une enveloppe de 300 euros, je crois. Et Madame la libraire pourrait le certifier, c'est-à-dire que tous les jeunes sont allés en librairie acheter. Alors, c'était des mangas. Et plusieurs fois, j'ai entendu des gens qui disaient « Ah oui, mais ils achètent des mangas, pourquoi ils achètent ça? Ils devraient acheter plutôt un autre type de littérature. » Mais peut-être que ce sont des jeunes qui n'auraient pas lu, qui ne seraient pas allés en librairie. Ils sont allés en librairie. Mais en plus, les histoires sont absolument formidables. Mais en plus, ils sont allés en librairie, c'est-à-dire qu'ils s'ouvrent vers cette littérature des mangas et après, ils découvrent d'autres livres qui sont là, on en parlait tout à l'heure. Et ça peut les amener vers, après, peut-être des livres plus gros, des Harry Potter et puis d'autres types de lectures. Donc, c'est encore quelque chose, justement, c'est très populaire et c'est formidable parce que ça amène des gens à la lecture.
Vous êtes prescriptrice, Anne Lorvial ?
Alors vous, globalement, ouais, toute l'équipe, ouais, absolument, on essaye, On parlait de ces jeunes qui viennent avec le pass culture. En fait, ils viennent avec une idée qui peut être un manga, qui d'ailleurs peut être aussi complètement autre chose, hein, de la littérature ou de la littérature ado, parfois même des sciences sociales. Et ils vont rentrer en contact avec un libraire et on va leur prescrire d'autres choses. Donc ils vont sortir de leur univers et de leurs recommandations entre amis, puis ils vont découvrir encore un autre univers. Ça, c'est hyper intéressant. Et oui, on prescrit en fait la rentrée littéraire. Bon, c'est un moment de l'année particulier, mais on le fait toute l'année. On va écrire des coups de cœur. On va mettre ses livres sur des tables avec un mot. On s'engage hein, sur la qualité de ce qu'on va proposer, la diversité aussi. Et puis, on va transmettre ses coups de cœur aussi via des médiateurs, les réseaux sociaux, etc. Mais dans l'idée vraiment de faire lire un auteur.
Bon, et Franck Tilliez, ça se vend bien chez vous ?
Oui, tout à fait. Oui.
Bon, bah, merci Anne. Et bon courage donc pour ces 521 livres arrangés dans votre librairie, même si vous en avez sélectionné une quarantaine.
Un plaisir, une excitation, hein, que du courage.
Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Peut-être un mot, Éric Libio, parce que vous connaissez bien aussi l'importance des libraires dans la distribution des livres.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette mode des petits mots qui se faisaient pas il y a une vingtaine d'années et qui petit à petit s'est fait. Maintenant, on retrouve effectivement la prescription est importante, leur parole est importante. On en revient à un commerce de proximité, que ce soit là, d'ailleurs pour les livres ou pour tout à fait autre chose. Donc il y a ce rapport humain et comme disait Franck. Au début, on commence avec des petits libraires, puis après, on est de plus en plus important. Et je pense qu'il faut un lien parce qu'il y a je crois que dans la littérature populaire, on parlait de la définition, il y a aussi une notion d'apprentissage. La littérature populaire, c'est celle qui apprend le monde, c'est celle qui apprend le romanesque, et c'est celle qui apprend sur soi-même aussi, et c'est celle qui apprend sur la lecture elle-même. Franck, je ne sais pas s'il va le dire, mais dans tous ces bouquins, il y a des références à la littérature, il y a des jeux, il y a des mises en abîme comme ça de la littérature, où peut-être que le lecteur qui n'est pas, alors je ne sais plus, dans celui-là,
c'est Baudelaire, vous avez H.G. Wells, voilà. Vous avez le Horla de Maupassant, il y en a beaucoup dans 1991.
Ce qui est intéressant, c'est que peut-être le lecteur qui n'est pas forcément habitué aux poèmes de Baudelaire ou de Maupassant va se dire, le livre est formidable, j'allais voir ce que c'est. Donc il y a les écrivains, il y a cet apprentissage qui se fait, ce que je trouve formidable. La libraire disait qu'il y avait un retour du romanesque. Moi, je crois beaucoup à ça. Il y a eu une période dans la littérature française où c'était vraiment un peu asséché. C'était vraiment le nombril, qu'on parlait du nombril. Aujourd'hui, peut-être sous l'impulsion des écrivains de genre, il y a un grand retour au romanesque.
Qu'est-ce que c'est le romanesque ?
Le romanesque, c'est un peu comme le cinéma classique, c'est-à-dire c'est une histoire, des péripéties, des personnages, un début, un milieu, une fin, une quête, une enquête, un vide qu'il faut combler, un chaos qu'il faut essayer de remettre d'aplomb, si je puis dire. Donc le romanesque, c'est le conte de Monte Cristo, quoi, le romanesque. C'est raconter une histoire.
Le souffle, ce qui vous
emporte. Voilà, le souffle. Et ça raconte le monde aussi. Si vous voulez apprendre sur la naissance des États-Unis au début du XXe siècle, c'est Dos Passos d'un côté et Horace McCoy avec On a bien les chevaux de l'autre. Donc c'est un polar d'un côté et puis un écrivain qui a eu un prix Nobel de l'autre. Et le romanesque, c'est ça. Ce sont des gens qui racontent aussi le monde, qui sont témoins du monde. Et à sa façon, Franck Tilliez et Bernard Minier et d'autres sont aussi témoins du monde.
Vous racontez le monde, Franck Tilliez ?
Oui, on essaye. C'est vraiment le propre du genre d'être observateur de ce monde et d'essayer de retranscrire au mieux ce qu'on perçoit en tant qu'auteur de polar. On s'intéresse notamment aux failles, qui font que la société va moins bien, qu'est-ce qui se passe. Alors moi, c'est plutôt effectivement d'un point de vue scientifique, toutes les dérives, mais c'est essayer de retranscrire ça. Mais comme disait Eric, c'est le polar, c'est vraiment une photographie du monde dans lequel on vit à un instant donné, dans un endroit donné. Les grands auteurs américains du début des années 20. Aujourd'hui, vous prenez Craig Johnson, Jim Harrison, il y a quelques années, on peut mieux décrire les petites villes dans les grands paysages des États-Unis.
Les Indiens aussi, l'un comme l'autre.
Les Indiens aussi, enfin voilà. Donc vous pouvez vous retrouver au fin fond d'une ville de Russie, vous pouvez vous retrouver en Argentine, où on va parler d'une dictature qui a lieu il y a 20 ans. C'est-à-dire que le polar, c'est un genre extrêmement riche, extrêmement varié. Vous trouvez du roman historique. Mais vous parliez tout à l'heure du Nom de la Rose qui cumule un peu. C'est de la littérature générale. C'est du best-seller. C'est aussi, il y a une intrigue à l'intérieur très très forte. Et donc, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'aussi, il y a ça aussi. C'est-à-dire une espèce de stigmatisation de l'auteur qui va lire de la littérature populaire, du lecteur. Et ces gens-là peuvent très bien lire Proust, Balzac. Enfin, voilà, il n'y a pas de barrière entre les genres.
Sur franceinter.fr, Claude, avec des mots bien sentis, nous dit dans la littérature comme dans le cinéma, dès qu'une œuvre est qualifiée de populaire, les médiocres les descendent en flammes, préférant se torturer la cervelle avec des œuvres incompréhensibles et abscons. Ce sont juste des pisse-vinaigres sans talent, nous dit Claude. Et puis Alison nous dit l'essentiel, c'est qu'il y ait des livres variés pour tous les publics. Non, mais c'est vrai que ces best-sellers n'ont pas forcément bonne presse. Cécile Rabaud, ils ne sont pas bien vus. On les accuse d'être formatés, d'être finalement de répondre à une commande commerciale en quelque sorte.
Alors, ce qu'ils sont en partie, ils relèvent,
oui,
en tout cas
nier.
Pour une partie
un
d'entre eux, de ce pôle de production, de grande production. Avec une logique commerciale qui est bien là. Il y a tout un dispositif promotionnel qui accompagne ces ouvrages. Il y a une mise en place dans les librairies, il y a des tirages forts, il y a des affiches dans le métro. Enfin,
On est au courant quand Franck Tilliez sort un nouveau livre,
c'est à peu près une fois par an, il y a toute une publicité.
Dans les métros, dans les transports en commun, on voit en effet de grandes affiches.
Il y a toute une publicité donc qui fait que ces livres-là ne risquent pas de rester invisible. Et par ailleurs, cette publicité s'appuie sur le nom de l'auteur, enfin le nom des auteurs, qui finissent par fonctionner comme des marques. Finalement, c'est pas tellement le nom de l'éditeur qu'on repère, mais le nom de l'auteur. Et ce nom d'auteur, on va le suivre, quelle que soit la qualité propre de l'ouvrage, puisque on ne sait pas encore quel va être l'intérêt de l'ouvrage, mais on achète parce que c'est le dernier ouvrage. Donc
voilà, il y a bien,
voilà, par exemple, il y a bien une dimension commerciale au sens où il y a toutes ces stratégies éditoriales qui construisent un produit qui est susceptible de rencontrer un public large. Après, ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais il y a bien cette dimension-là. Après, en fait, dans best-seller, on pourrait aussi inclure d'autres types de meilleures ventes qui ne relèvent pas de ces produits construits, assez formatés, j'allais dire, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas construits pour être des productions à succès. Il y a aussi d'autres choses qu'on trouve dans la liste des meilleures ventes, des types de livres qui sont produits différemment. Peut-être, par exemple, on peut penser à des livres qui ont eu le prix Goncourt, qui ne sont pas construits pour être des best-sellers, mais qui finalement vont quand même être vendu à 500 000 exemplaires.
Donc, et il y a des chefs-d'œuvre littéraires qui sont aussi des best-sellers. On peut penser, par exemple, on a cité Umberto Eco avec Le Nom de la Rose, mais il y a aussi 100 ans de solitude, par exemple.
Mais oui, et puis Georges Simenon également. Et aujourd'hui, comme vous disiez, les Goncourt s'intéressent un peu plus à cette littérature-là. Il y a eu Pierre Lemaître avec Là-haut,
qui vient du polar également.
Voilà, il y a eu Nicolas Mathieu qui aussi vient du polar avec les enfants après eux. C'est vrai que c'est une littérature. Mais moi, la question se pose en fait. Alors, on pourrait poser la question comme ça. Qu'est-ce qui est mieux écrit, Franck Tilliez ou Jean Echenoz, pour être un peu radical?
Alors, effectivement, il y a un travail sur la langue de Jean Echenoz qu'on ne retrouve pas, pardon de le dire.
Moi, je suis un adorateur de Jean Echenoz, j'ai tout lu. Mais je me dis que les deux correspondent, sont assez cohérents avec ce qu'il raconte aussi. Alors, évidemment, il n'y a pas le même travail, pardon de dire ça à Franck qui est devant moi, il n'y a pas le même travail de Franck sur la langue. Mais il y a juste un travail sur la péripétie, sur le romanesque, sur raconter une histoire, sur les émotions et tout ça. Et peut-être que les lecteurs préfèrent Echenoz parce que justement, ce qui les intéresse, c'est le travail sur la langue en tant que lecteur. Et puis il y en a d'autres, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des émotions, d'avoir peur, d'avoir de se marrer, etc. Donc il y a pas. Alors évidemment, il y a des degrés de qualité d'écriture, mais à partir du moment où l'un et l'autre sont cohérents par rapport au projet qu'ils ont au départ et ce qu'ils veulent donner à l'arrivée, moi je fais pas tellement de différence entre Franck et Echenoz, entre Echenoz et Franck Tilliez. Je prends le plaisir. Il y a des bouquins que j'aime moins de Franck, il y en a d'autres que je trouve formidables. Echenoz, c'est un peu ça aussi, et je prends un plaisir à l'un et à l'autre, quand j'ai besoin d'avoir plus sur l'écriture ou plus sur le romanesque.
Et comme le dit Alison sur l'appli de France Inter, l'essentiel c'est qu'il y ait des livres variés pour tous les publics.
Mais exactement.
Franck Tilliez, vous avez lu Jean Echenoz?
Oui, mais je suis complètement d'accord avec Eric, l'analyse est très bonne. Moi, en fait, le livre, c'est le meilleur moyen d'expression que j'ai trouvé pour raconter mes histoires. C'est-à-dire, j'ai des histoires à raconter, que j'ai envie de raconter, que j'ai envie de transmettre aux gens sur des sujets qui m'intéressent. Et il se trouve que j'ai du papier devant moi, j'ai un ordinateur, et j'écris pour pouvoir rendre accessibles mes histoires aux gens. Donc, je ne prétends pas faire de la littérature, c'est pas mon but initial. Moi, je ne viens pas d'un milieu littéraire. Je viens des milieux populaires. Donc je me suis mis à écrire. Il se trouve que ce que j'ai écrit a résonné avec ce que les gens attendaient, et donc j'ai continué. Alors j'essaye de travailler un peu mon style quand même, mais c'est plus pas sur les mots, plus peut-être sur le rythme, parce que ce sont des romans
sur le récit en fait.
Le récit, plus le rythme, récit, aussi des images, parce que voilà, j'aime beaucoup les Germinal de Zola avec les grandes descriptions. Moi, j'adore ça, mais j'essaye de trouver en tout cas une musique dans mon écriture pour la rendre la plus, en tout cas déjà qu'elle me satisfasse personnellement, avec des recherches sur le vocabulaire. Je lis plein d'ouvrages.
Ouais, c'est très documenté.
J'essaie d'apprendre aussi des termes, des mots, des moyens de raconter des histoires. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que moi, je me fais plaisir et j'essaye de procurer ce plaisir à des lecteurs, parce que c'est ce que moi-même j'ai ressenti quand j'étais plus jeune, le plaisir de la lecture, le plaisir d'avoir peur, de ressentir le frisson. Et c'est ça qui m'a donné l'envie d'écrire.
Vous vous souvenez du premier bouquin qui vous a comme ça interpellé?
Oui, il y avait Cro-Blanc, mais je dirais dans ce milieu de la peur, c'était vraiment Stephen King, c'est-à-dire Il m'a procuré une émotion que j'avais jamais ressentie jusque-là, étant jeune adolescent, celle de la peur, de la confrontation à la peur, de la transgression, parce que c'est aussi ce qui fait que les gens lisent des polars, cette envie de regarder un peu dans le trou de la serrure, c'est ce qui fait le succès du genre. Et j'ai tellement trouvé ça extraordinaire que quelqu'un que je ne connais pas, Stephen King, qui a des milliers de kilomètres de moi, puisse me toucher, moi, chez moi, ça m'avait vraiment ému, et c'est plus ça qui m'a donné l'envie d'écrire que toute autre chose.
La littérature populaire et la critique dans le débat de midi aujourd'hui. On attend toujours vos commentaires et vos réactions sur le site de France Inter. Il est midi 49 et nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
Anything just to keep her free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago. Said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. And now she's pimping every motto. You might be next if you try to cut mama's cake.
What the deal, Daddy?
Ask her what the deal is. This is what she said. You really need to get back to the truth of who we are before we go astray.
Before we go astray.
Ask her what the deal is.
What the deal is.
This is what she'll say. Born to die, born to die. If you ain't living right, you sure that born to die. Look out, get you, get you. She gets you so high, so high. Said nothing good happens after midnight.
You get ya
so high.
Bye bye.
So, so high. So, so high. So, so high. So, so high. So, so high.
Born to Die, extrait de l'album posthume de Prince disparu en 2016. Toute la programmation musicale est à retrouver sur le site de l'émission.
Le débat de midi, à retrouver pendant tout l'été à midi sur France Inter et en podcast sur franceinter.fr.
Trois invités aujourd'hui pour évoquer la littérature populaire. Franck Tilliez, qui est auteur de Polar, Éric Libiot, journaliste, et Cécile Rabaud, sociologue. Vous parlez, Cécile Rabaud, de la vertu thérapeutique des livres, et notamment d'ailleurs de la vertu thérapeutique des polars.
Oui, alors quand j'utilise ce terme, je renvoie à des travaux existants, notamment une étude qui avait été faite sur le roman policier par Annie Colovald et Éric Neveu, qui date de 2004, je crois, où les auteurs ont fait une enquête sur les lecteurs et lectrices de romans policiers, et ils montrent qu'il y a différents usages, comme je disais tout à l'heure, de ces littératures policières, notamment cette fonction d'apprentissage, de compréhension du monde social aussi, qui est très très importante. Mais ce qui était intéressant, c'était qu'il reliait aussi aux trajectoires de vie des lecteurs et des lectrices. Et dans un certain nombre de cas, la lecture de romans policiers répondait à des trajectoires un peu heurté à des crises existentielles, à des moments de rupture, des moments de questionnement, donc de questionnement sur soi et en même temps sur le monde social tel qu'il va. Et donc le roman policier permet de se questionner et de surmonter la crise, enfin aide à surmonter la crise. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je dis on peut parler, il me semble, de littérature à fonction thérapeutique, en tout cas ça fait partie de ces usages de la littérature qui fait du bien, qui permet d'avancer. Alors aujourd'hui, on a aussi tout un volet du côté de la littérature dite feel good, qui a un petit peu aussi ses fonctions de se faire du bien, progresser, aller mieux. Mais c'est pas tout à fait, il me semble, la même manière.
Ça me fait penser à cette vieille publicité, Éric Libiot, qui était pour les libraires, qui disaient: quand je ne me sens pas bien, je vais pas chez mon pharmacien, mais je vais chez mon libraire.
Oui, mais c'est vrai que, alors, comme vous disiez, il y a de la littérature feel good. Moi, je sais que j'aime bien, quand je lis, être un peu secoué, soit avoir peur, soit me poser des questions, soit pas. C'est pas forcément agréable, la littérature populaire ou la littérature tout court. C'est à la fois une catharsis, à la fois un effet miroir, c'est à la fois se plonger dans un imaginaire. On n'a pas parlé d'imaginaire. C'est vrai que l'imaginaire est important quand on lit, et qu'on n'est pas. Oui, ça fait plaisir de lire. Le fait, c'est pour ça que je disais au tout début de l'émission, le goût de la lecture est en soi un plaisir, même si le livre en lui-même peut procurer des désagréments, des secousses, des agacements, ou des peurs et tout ça. C'est pas pour ça qu'on prend pas plaisir à lire. Je pense que, et puis selon les cas, le 22 janvier on lira plutôt un feel good, et puis le 3 mars Franck Tilliez, et puis à la fin de l'année on lira Echnoz ou Simenon ou Monte Cristo, quoi. Il y a aussi des périodes de la vie, parce qu'on est dans un certain état d'esprit, et c'est pour ça que la littérature est si variée et qu'on y trouve tous notre plaisir.
Dans l'un de vos livres, Franck Tilliez, donc c'est Charcot, c'est à la fois le titre du livre, mais c'est aussi le nom de votre héros récurrent. Il y a une histoire de vampire. Alors, c'est peut-être une référence au film que vous aimiez quand vous étiez jeune, parce que vous aimiez les films d'horreur quand vous étiez jeune. Mais c'est aussi peut-être la référence à Dracula de Bram Stoker, qui est un livre de genre qu'on disait mineur, la littérature fantastique à l'époque, et qui pourtant, lui comme vous, s'est énormément vendu au 19e siècle.
Oui, bah, le 19e siècle, fin du 19e et début du 20e, il y avait un vrai attrait pour tout ce qui était faits divers, crimes. Et d'ailleurs, beaucoup d'auteurs et de grands auteurs.
Même début 20e pour Dracula.
Début 20e, beaucoup de grands auteurs se sont jetés un peu sur le roman feuilleton, mais même Balzac, Dickens ont écrit pour des journaux, Dumas, Père, Eugène Sue, écrivaient ce qu'on appelait des romans feuilletons, c'est-à-dire des romans qui étaient publiés dans les journaux pour les lecteurs. Donc c'était quelque part une littérature populaire dont on savait qu'elle allait être lue, dont on savait qu'elle allait plaire. Et à l'époque, on parlait de critiques au début, ces romans ont justement été, enfin en tout cas ces feuilletons ont été assez mal perçus par justement la critique comme étant justement trop populaires, pas assez, voilà, ces auteurs-là ont surpris par cette écriture pour
mais ils sont bien vendus quand même.
Mais oui, bah c'était un peu le but, c'était pour augmenter les ventes des journaux qu'on faisait appel à des grands auteurs pour écrire ces feuilletons. Mais il y avait les gens ont toujours aimé qu'on leur raconte des histoires. Ça, c'est, je crois que c'est un peu la base du, tout à l'heure on cherchait un peu la définition du romanesque, c'est raconter une histoire, c'est toucher le cœur de lecteur, alors toucher l'âme par l'élévation que va procurer le livre et toutes les interrogations qu'il va évidemment levée. Ça, c'est là où il y a peut-être la littérature avec un grand L. Et puis après, il y a la littérature qui va toucher le cœur des gens avec des émotions, une littérature dans laquelle les lecteurs vont pouvoir se reconnaître. C'est le propre du polar qui prend des personnages, ma foi, de notre société, qui peuvent être les voisins, les amis. On se reconnaît en ces personnages. C'est une littérature qui fait du bien, le polar, finalement, parce qu'on se rend compte que ces personnages ont des existences qui sont 10 fois pires que les nôtres parce qu'ils traversent, mais en même temps, ils arrivent à surmonter leurs problèmes. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire, voilà, il y a des gens qui ont des problèmes en face de nous, ils arrivent à les surmonter, donc nous aussi, on peut y arriver. Donc il y a un effet, effectivement, cathartique. Donc il y a tout un tas d'éléments qui fait que cette littérature fonctionne bien avec l'époque dans laquelle on vit.
Ce dernier message qui va vous faire plaisir, Carole qui nous dit agrégée de lettres modernes et férue de littérature classique et contemporaine. Inlassable lectrice, je dévore avec un plaisir ineffable les romans de Franck Tilliez que je n'hésite jamais à recommander à mes élèves de lycée. Merci pour le plaisir que vous nous procurez. Eh bien merci, merci à tous les trois d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui dans le débat de midi. C'est fini, mais on se retrouve demain pour se demander si l'animal est l'avenir de l'homme. Et on attend déjà vos commentaires sur franceinter.fr.